Donc, je vois que tu es à Orléans.
Alors, moi, je suis à Orléans, je suis reporter animateur à Radio France, France 2. France Bleu la semaine et de temps en temps sur France Culture, où là, je co-anime une émission avec Frédéric Martel, qui a sorti d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle Mainstream. Et là, c'est je co-anime une heure d'émission avec lui sur des sujets de masse, sur des sujets de culture, voilà, tout simplement.
Donc, on va y revenir parce que je pense qu'on va consacrer une bonne partie aussi de l'entretien au travail. En fait, tu me diras à ce moment-là ce que tu fais exactement. Voilà. Donc là, tu es à Orléans depuis quand en fait
Alors, à France Bleu, moi je suis né ici à Orléans, donc Orléans c'est ma ville. Je suis
né à Orléans.
L'hôpital de la Madeleine,
à 150 mètres.
Et moi j'ai commencé ici à France Bleu en stage déjà à 15 ans. Stage de troisième parce qu'on nous impose un stage d'une semaine quand vous êtes en troisième. Et c'est comme ça que j'ai connu France Bleu Orléans en fait. Et c'est même pas un stage que j'ai trouvé moi-même, c'est juste une amie à l'époque, Géraldine, qui elle avait son stage ici et qui voulait pas faire ça. Et moi je devais faire mon stage dans les cuisines du collège. C'est très marrant. Hein. Et donc elle m'a dit moi je préfère aller faire de l'imprimerie, tout ça, va en radio, tu verras, c'est super. Et donc je lui dis pourquoi pas. Et donc je pensais aller à l'hôpital au début avec elle. Je me suis dit en radio, j'avais compris radiologie. Donc au début je me suis dit c'est super, je vais aller à l'hôpital et tout, je vais voir des gens, machin, tout ça, bon c'est super. Et puis je me retrouve là et je me dis, ah oui, en fait, c'est de la radio où tu parles. Elle me dit, oui, c'est pas de la radio. Et donc, voilà, l'aventure a commencé. J'ai pris du plaisir à être là pendant une semaine. Ils n'avaient jamais vu... parce que j'étais fou à l'époque. C'est-à-dire que, déjà, je tutoyais. Je ne savais pas, vous voyez. J'ai rigolé beaucoup. J'avais beaucoup d'humour. Plus qu'aujourd'hui, peut-être. Et c'est comme ça que l'aventure a connu. C'est qu'ils se sont attachés... Enfin, on s'est apprécié aussi bien la direction et moi c'est parce que je voulais faire dans ma vie, je veux dire, j'ai commencé là-dedans, je savais pas, moi c'était une semaine de stage, voilà. Et puis voilà, on a bien rigolé et puis c'était un peu en quelque sorte un peu le choc des cultures, si on peut appeler ça comme ça. C'est que moi j'ai grandi dans un quartier et
parce que dans quel quartier
de l'Argonne, le quartier de l'Argonne, voilà, j'ai grandi sur le quartier de l'Argonne. Et donc C'était mon franc-parler qui les faisait vraiment délirer parce qu'ils se disaient, mais il a 15 ans, il a 16 ans, il parle comme, voilà, c'est énorme, quoi. Il est super marrant. Et voilà, donc du coup, j'ai super bien accroché donc, avec la direction. De temps en temps, je passais, machin, tout ça, jusqu'au jour où on m'a dit, écoute, on a un gars qui me présente une chronique ici, qui s'en va et tout. Je dis, attends, mais moi je ne vais pas faire ça. Moi je suis en stage de 3e, j'ai 20 ans aujourd'hui, 21 ans, c'est bon. Je dis, t'inquiète pas, on va t'apprendre et tout. J'ai commencé ma chronique, ça s'appelait Journal de la Source. C'était une chronique sur les associations du quartier uniquement de la Source.
Alors, c'est toi, c'était de
l'argent. Alors, déjà, c'était un peu compliqué pour moi, déjà. Et ensuite, 2 ans après, j'ai dit, écoute, quand même. Journal de la Source, c'est bien, mais il n'y a pas que des associations à la Source, c'est aussi un peu partout. Et donc il m'a dit, ok, pourquoi pas. Je lui ai dit, appelons cette rubrique Quartier Libre. Mm-hmm. Alors Quartier Libre, c'était le journal des associations de l'agglomération orléanaise. Mm-hmm. Et ça passait le samedi. Et quand on faisait des extérieurs, on distribuait des petits cadeaux et tout, quand j'étais moi de service et que je me présentais, je me disais, bonjour, machin, vous êtes qui? Je disais, moi, je ne connais pas. C'était très marrant, parce que je passais que 3 minutes en fait, samedi et dimanche. Donc voilà. Et voilà, je continue à faire ma rubrique. Un jour, je reviens de reportage. On me dit, on a un gros problème, c'est que l'animateur, il est malade, j'ai personne pour remplacer. Mm-hmm. Il a appelé une heure avant et il a eu un gros pépin. Mm-hmm. Il m'a dit, faut que tu y ailles. Je dis, attends, il faut que j'y aille. Il faut 6 mois là, avant de prendre la tête. Il me dit, et donc c'est le site des reporters. Mm-hmm. En fait, le site des reporters, c'est une personne qui prend le micro, qui va dans la rue et qui fait parler les commerçants, les habitants d'Orléans, qui prend un peu la température d'Orléans, mais sans réellement avoir de gros sujets, sans traiter sujets d'actualité. C'est juste, on va rigoler ensemble dans la rue, savoir un peu ce qui se passe sur Orléans. Mm-hmm. Je lui dis, non, mais attends, Philippe, tu te rends compte, tu vas me mettre. J'ai jamais fait ça, moi. Il faut. Déjà, rien que quand j'enregistre ma rubrique, je dois me prendre au moins 100 fois. Si là, c'est en direct, comment je vais faire? Et il me donne le micro et il me pousse dehors. Il me dit, tu te démerdes. Et donc, je fais mon premier micro, je rencontre un couple. Et je rencontre un couple et voilà, est-ce que vous allez bien, machin, tout ça, impeccable, il fait beau aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés et tout. Et là, le gars me dit, écoute, moi, on s'est rencontrés, aujourd'hui on s'aime et tout. Je dis, oui, moi, je dois connaître l'histoire, comment, qui a fait le premier pas. Il me dit, moi, c'est elle, elle m'a vu, elle est tombée amoureuse de moi. Et je voyais la fille qui commençait à s'énerver, qui s'agaçait, et d'un seul coup elle dit, tu m'énerves, t'es qu'un con. Et elle lui met une grosse claque qui passe à l'antenne, donc le bruit passe à l'antenne. Et donc l'animatrice derrière, elle était vraiment morte de rire, mais elle n'en pouvait plus, obligée de passer trois disques à la suite. Et ils venaient à la radio, mais ils m'ont dit, mais c'est toi qui dois faire ça. Et donc depuis ce jour-là, on m'a donné, la personne faisait lui du lundi au jeudi, le 7e reporter plus l'infotrafic, et moi je faisais le vendredi plus meilleur rubrique du samedi dimanche.
D'accord.
Et puis après, je commençais, les auditeurs appelaient beaucoup, mais il est génial, c'est qui, machin, tout ça, il faut le mettre toute la semaine, il est rigolo, on attend le vendredi à chaque fois pour pouvoir rigoler et tout. Parce que mon collègue qui m'a appris vraiment le métier, Mathieu Maillard, et qui aujourd'hui présente une émission qui s'appelle Le Grand Bûcher, une émission polémique, c'est vraiment lui qui m'a appris une petite bricole un peu de la radio. Et, mais comme on ne vient pas du même milieu, comme on rigole ensemble, pourtant c'est mon meilleur pote, je veux dire, en radio et tout, voilà. C'est pas pareil. Mmh. Et donc, moi, les auditeurs, bizarrement, ont accroché. Et donc, après, on m'a porté tout le temps à plein temps, en semaine.
Et le collègue, donc.
Je lui ai un peu piqué sa place.
Et, justement, donc, le collègue que tu avais remplacé parce qu'il était malade.
Bah, c'était Mathieu, en fait, qui était malade.
Ah, oui, d'accord.
Mmh. C'était Mathieu qui était malade. Et donc, du coup, lui, après, faisait plus. Lui, il a été vraiment mis sur un gros, gros créneau qui est les matinales. Mmh. Parce que c'est un très, très bon animateur. Il faisait les matinales avant de faire aujourd'hui son émission avec plein de gens autour du micro. Mmh. Voilà, mais pas le grand bûcher. Voilà l'histoire de moi et de.
Alors, ton stage de 3e, c'était quelle année ça?
C'était. Alors, moi, j'ai eu quelques années de retard. Alors, je disais 15-16 ans, mais en fait, je crois que c'est 16 ans. Mmh. Je suis né en 80, ça fait 96.
D'accord.
96-97, par là.
D'accord. Okay.
96-97, parce que je suis né en fin d'année.
Mmh.
Et donc voilà, moi j'ai commencé vraiment comme ça, mais je ne savais pas ce que c'était, j'écoutais pas la radio. Peut-être la seule émission que j'ai dû écouter une fois, de temps en temps, c'était sur Skyrock, c'était à l'époque Max, qui était vraiment quelqu'un de très méchant en radio. Mmh. Je pensais que la radio c'était ça.
D'accord.
Quelqu'un de très méchant qui empêchait les auditeurs et tout. Mais c'est pas un truc qui m'intéressait. Moi j'ai fait des études d'électricien, après d'électrotechnique, après j'ai fait énergétique, après une promotion A. Enfin, c'est un parcours complètement différent.
Ouais. D'accord, ok. Et donc tu me disais en fait que ça, disons que le ton que tu as apporté.
Le ton que j'ai apporté, ouais, mais c'est mon franc-parler. Ah ouais, absolument.
Et tu crois que tu as gardé ce.
Non. J'ai pas gardé parce que derrière tout ça, il y a eu un gros, gros boulot. Là, on rigole et tout, mais vraiment derrière tout ça, il y a un très gros boulot. C'est-à-dire que j'ai. Bosser sur moi-même, c'est-à-dire vraiment je faisais beaucoup de fautes de syntaxe, enfin je faisais des liaisons un peu bizarres, et c'est pour ça que les auditeurs ont accroché, c'est que je découpais la langue française et à ma façon, c'est-à-dire que des fois même j'inventais des mots, des fois même j'inventais des verbes, et c'est ce qui plaisait justement.
D'accord.
Aujourd'hui je ne le fais plus trop parce que voilà, on grandit, j'ai 29 ans, bientôt 30, et quand on a des enfants, et puis même on évolue, et puis on essaie pour plus tard, même pour aller peut-être sur un média national.
Mmh.
Au bout d'un moment, il faut, je pense, quitter cette casquette.
Ce créneau-là.
Voilà.
Mais tu penses le compenser par.
Je garde ma fraîcheur. Alors moi, je garde le truc qui est ma fraîcheur, mon côté. Sympathique, mais je la déforme quand même. Moi, j'adore déformer la langue française.
Parce que moi, ce que j'ai pu écouter, hein, c'est ce que ça m'arrive d'écouter à la radio, c'est impeccable. Enfin,
de temps en temps, bon, j'aime bien taquiner parce que je sais que les auditeurs, moi-même, par exemple, sur notre radio, à la télévision, dès qu'on bute sur un mot, dès que ça m'agace, et je me dis pourquoi pas le faire.
D'accord.
Justement, parce qu'il n'y a que comme. Je pars du principe où la radio, bon, on n'a pas le visuel. Mmh. Et pour pouvoir attirer l'auditeur, il faut quelque chose. Mmh. Parce que quand, quand je découpe la langue française, par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est que d'un côté, je cherche l'auditeur. Il va dire, oh, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Mmh. Et puis là, il fait attention à ce que je raconte. Et après, c'est chacun voit comment il dit le français. Mmh. Mais moi, c'est comme ça. Je le fais beaucoup moins aujourd'hui. Le fait de temps en temps, quand même, ça m'arrive. Mmh. Ça me fait plaisir. Mais
tu fais attention à ça ou donc,
Alors je fais quand même attention. Moi, ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est faire découvrir des mots aux auditeurs. Mm-hmm. Aussi bien des mots, parce que je suis d'origine, j'ai des origines, hein, mes parents sont marocains. Mm-hmm. Un mot marocain ou éventuellement espagnol ou anglais ou un peu du français, mais du français de Jones, du français comme je l'appelle le français texto.
D'accord.
Le langage texto.
D'accord. Voilà.
Ça, c'est. Je me dis, nous, nos auditeurs, ils n'ont pas 17 ans, quoi, ils n'ont pas 16 ans. C'est nos auditeurs, ils ont entre 30 et 70 ans. Donc, ils ne connaissent pas forcément. Et le fait de leur en parler, ça les prépare. Je me dis, pourquoi pas, un futur. Discuter avec des jeunes ou avec d'autres personnes de d'autres nationalités. Ah, j'ai déjà écouté ou entendu ce mot-là. J'ai écouté à la radio, ça veut dire ça. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas utiliser le français, je veux dire, dans le temps, comme on est en 2010. Aujourd'hui, il est important de comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, j'ai kiffé ou des mots comme ça qui font on va pas dire partie de la langue française, mais partie de la langue française de la rue. Aujourd'hui, ça fait partie de notre langage.
Ok, bon, je pense que je reviendrai peut-être si sur la question du travail. Donc là, la radio elle est au centre-ville et toi-même
alors j'habite aujourd'hui en centre-ville, en centre-ville. Moi, j'ai grandi dans les quartiers, machin. J'ai eu des enfants très tôt, à 25 ans. Bon, premier appartement avec madame, tout ça. Donc, c'était un peu précipité. Mais j'ai toujours cherché à habiter le centre-ville. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans les quartiers qui m'ont vraiment apporté 90% de ce que je suis aujourd'hui. Ça il ne faut pas le renier, mais j'ai voulu quitter un peu le quartier parce que je voulais voir autre chose. Comme aujourd'hui je me dis j'aimerais bien avoir une maison, je n'ai jamais eu de maison. Mais bon, avoir un petit bout de jardin et tout ça serait génial pour les enfants et tout, mais habiter le centre-ville, bon, c'est bien, on a la ville, on a tout à proximité, j'ai la radio à côté, machin, tout ça, et c'est une autre vie, c'est une vie que je découvre tous les jours.
Ça fait longtemps que...
Alors ça fait, moi j'ai quitté mes parents à 26 ans, à 25 ans, j'ai quitté mes parents à 25 ans. J'en ai 29, donc ça fait 4-5 ans bientôt.
D'accord.
5 ans bientôt.
Et t'es plutôt dans le quartier ici?
Avant, j'étais. J'habite en fait à résidence des Chafferets, qui est pas loin de la rue des Carmes et de la place de Gaulle.
D'accord.
Donc.
Et alors, le quartier, donc je vois bien que tu distingues bien on va dire, le centre-ville des quartiers, etc., des avantages.
Ah, mais j'ai quand même cherché à venir habiter à Orléans dans une rue animée et beaucoup animée, c'est la rue des Carmes en fait. J'ai besoin, même si je suis venu, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose. C'est-à-dire que la rue des Carmes, c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression d'être au Maroc ou en Algérie, ça parle en arabe, ça parle fort. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette animation, j'ai besoin de ce côté aussi où je vais m'acheter un poulet rôti à 22h le soir, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aller boire un thé à la menthe, j'ai besoin de tout ça. C'est pour moi important.
Donc tu es souvent tu fais des tours, des choses comme ça, tu fréquentes les petits magasins qu'il y a là, les cafés.
Moi j'adore, je peux pas, ne serait-ce déjà que dans mes interviews, je peux pas aller faire autre chose que ça. J'irai pas voir les grosses distribs, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Moi c'est vraiment la proximité. Le commerce de proximité, le café, tout ça, pour moi c'est intéressant, c'est là où il y a de la vie. c'est là où on peut discuter, c'est là où on fait des rencontres. C'est vrai.
Donc il y a un vrai urbain, y compris tes courses, tout ça. C'est,
bon, mes courses, bon, c'est vrai. Bon, allez, on va quand même aller. Voilà. Mais j'essaie quand même d'aller au maximum sur les marchés, tout ça.
D'accord. Les marchés, tu vas.
Alors, le marché, il y a le marché de la Belle le vendredi matin qui est vraiment très bien, je le conseille.
Je le connais. Et,
sinon, après, il y a d'autres marchés, mais comme je profite aussi de mes interventions, mais il ne faut pas le dire, le matin quand je fais les marchés pour faire un peu mon shopping.
D'accord.
Pour acheter tout simplement, moi j'achète, et ça je le dis à la radio, on ne croit pas souvent, mais les personnes que je fais en interview, je leur achète des choses. Moi je leur achète. Quand je fais parler à un marchand de légumes, eh ben, je lui prends un kilo de pommes de terre et un kilo de tomates. Voilà, c'est ça, c'est vieux. Et puis moi je peux pas. Moi je m'appelle France Bleu, je suis une radio de proximité. Et en plus, radio de service public. Donc voilà, pour moi, honnêtement, j'ai le même statut que la personne qui vend sur les marchés, parce que voilà, il est là pour faire vivre un quartier, une ville, et ben moi c'est pareil.
Non, d'accord. Donc tu vas tout seul en fait en reportage ou...
Ouais, j'y vais tout seul.
D'accord, donc t'as ton matériel.
J'ai mon matériel, j'ai mon téléphone, parce que je fais ça par téléphone en direct, et avec mon oreillette pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'antenne.
D'accord, ok. Donc tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as parlé un peu de tes parents qui sont d'origine marocaine.
Ouais, de Sefrou, d'une petite ville juste à côté. Sefrou, c'est pas loin de Fès, c'est à 20 km de Fès. Très belle cascade là-bas, c'est super. Et ils font des allers-retours. Mes parents sont actuellement sur Orléans, ils habitent encore sur le quartier de l'Argonne. Et mon papa, il a 2 ans de sa retraite.
D'accord.
Donc,
je peux te demander ce qu'il fait
Et en fait, il a un arrêt maladie parce qu'il ne peut plus. Il a été arrêté par. Et c'est pas lui, c'est la médecine du travail qui l'arrête. Parce qu'il fait de l'asthme. Alors, je vous explique, lui, il est ouvrier d'entretien. Il faut savoir que quand il est arrivé en France, on va faire l'ordre chronologique. Il débouchait les cheminées. Avant, les Français, pour se chauffer, avaient leurs cheminées. Donc, ils débouchaient les cheminées ou avaient ce qu'on appelle des espèces de cuves à charbon. Lui, il remplissait les cuves à charbon.
D'accord.
Et en fait, il est tombé un peu malade à cause de ça. Il est asthmatique aujourd'hui, il a du mal à respirer. Bon, c'est un peu. Voilà. Alors, ensuite, ça s'est transformé un peu plus tard dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, en climatisation. Parce qu'il fallait. C'est passé de charbon, après d'accord. C'est passé à des grosses centrales pour pouvoir chauffer les gens, par exemple à Fleury des Aubrais, et après c'est passé en climatisation où là il fallait changer des courroies en haut d'immeubles, machin, ça. Donc ça ça a commencé comme ça. Et donc il est tombé un peu malade, là, ça fait 1 an et demi qu'il est, 2 ans qu'il est en arrêt. Il a été tout simplement, je crois que c'est tous les 2 ans ou tous les 5 ans, on vous demande d'aller faire un truc, c'est une médecine du travail. Ils ont fait faire des efforts. Ils lui ont mis pas apte. Et mon père ne comprend pas. Il dit pourquoi je suis pas apte. Il dit parce qu'on va vous envoyer quand même faire des examens au niveau du cœur, au niveau du poumon, au niveau de. Et il a fait des examens et donc du coup il n'a plus le droit de faire des efforts, ni de monter sur une échelle, ni de faire ceci, ni de faire ça. Il dit mais moi je veux faire quoi. Il dit vous allez avec votre employeur. Il a vu avec son employeur et il ne pouvait pas, même pour l'image de l'entreprise, je ne pouvais pas renvoyer mon père parce que c'est ce qu'on appelle un bon soldat. C'est quelqu'un qui n'a jamais été malade, c'est quelqu'un qui a toujours été au boulot, c'est quelqu'un qui a fait des heures sup, c'est quelqu'un. Et comme ils m'ont dit, Ahmed, non, on va pas te mettre à la rue, on va pas faire tout ça parce que tu es quelqu'un d'exemplaire. Il a la médaille du travail, il a les 3 médailles, je crois, de bronze, d'argent et d'or.
D'accord.
Donc voilà, au bout d'un moment, c'est un peu l'image de l'entreprise, c'est les vétérans de l'entreprise, c'est voilà, il est arrivé, ils étaient peut-être 5 ou 6 et puis aujourd'hui ils sont des milliers. Et il dit on peut pas, donc du coup pour le moment il reste à la maison, il pose ses vacances normalement, de temps en temps il y va voir ses chefs, discuter un peu, mais pour le moment il est à la maison, il en arrive à la maison. Et de temps en temps, il dépose quand même ses vacances pour aller au pays, parce qu'il a fait construire une maison il y a de ça 15 ans. Et donc voilà,
il va régulièrement. D'accord. Et tu as d'autres frères et sœurs ?
Alors nous, on est 6 garçons. J'ai un grand frère qui, lui, est ingénieur et qui est directeur chez Renault, qui a le côté Turquie un peu.
C'est-à-dire ?
Bah, qui est en Turquie.
Ah, d'accord.
Il gère un peu Renault en Turquie. Oui, j'ai mon autre frère qui bosse pour une petite entreprise de maintenance. Il bosse par exemple sur des ponts. Mm-hmm. Des ponts, vous savez, qui soulèvent des trucs militaires, des tanks militaires, des trucs comme ça. Donc il bosse sur tout ce qui est la maintenance de systèmes automatisés, tout ça. Mm-hmm. J'ai un autre frère qui lui est sous la terrine, il bosse toujours. C'est un vrai bosseur. J'ai un autre frère qui lui est à la fac. Il est, je crois, en deuxième année, un truc des systèmes automatisés, je crois aussi. Je me suis fait, il a fait la fac de médecine à Tours, ça lui a pas plu. Mm-hmm. Mais après, il est revenu ici sur Orléans. Et puis, j'ai un autre frère aussi qui veut suivre un peu son grand frère, c'est-à-dire moi, qui fait de l'électrotechnique.
D'accord.
Mais je ne sais pas si.
C'est un petit
Oui, il a 17 ans. D'accord.
D'accord. Et donc, tu m'as dit que tu étais marié, que tu avais deux enfants, c'est ça?
Ouais, j'ai deux enfants. Alors, j'ai deux filles, j'en ai une de 4 ans et j'en ai une autre de 4 mois.
D'accord.
Voilà, c'est des 4. Voilà, et bah, je suis pas marié à la mairie.
D'accord.
Je suis pas marié à la mairie. J'ai quand même fait ce que l'on appelle. J'ai demandé la main quand même à son père. Comme je suis moi-même musulman. On a quand même fait ce qu'on appelle le halal en arabe, c'est un imam avec des gens autour d'un bon repas pour montrer aux gens que maintenant, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Mm. C'est un peu faire ça dans les règles de la religion. Voilà. Mm. Mais aujourd'hui, je ne suis pas marié encore à la mairie. Pour la seule et bonne raison, c'est que quand on avait commencé tous les deux, avant d'avoir notre fille, enfin, quand on a commencé, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, d'ailleurs, on a des fêtes avant-hier. Quand on avait voilà, décidé de ce machin, elle était enceinte, tout ça, donc je lui ai dit, bah, ça serait bien que l'on.
D'accord, elle est marocaine.
Elle est algérienne. Et donc voilà, c'est comme ça que ça. Et puis on n'avait pas trop les moyens, moi à l'époque je bossais pas comme je bosse aujourd'hui, donc on n'avait pas trop les moyens pour faire un gros mariage, mais je pense que je le ferai.
D'accord. Ouais. Et donc, pareil, des questions, tu vois, un peu, ça tourne autour de ça, de voir un peu les gens qui sont autour de toi, ouais. Le profil rapide de chacun. Et donc, ta femme, elle fait.
Elle est responsable adjointe d'une boutique pour enfants, d'ailleurs, rue de la République. D'accord. Actuellement, elle est en congé parental, hein, s'occupe de la petite dernière, Alia. D'accord. Et ça se passe plutôt bien. D'accord. C'est vrai que c'est un rythme un peu. Parce qu'il y a deux enfants quand même, hein. Même si elle a la maternelle, c'est vrai que bon, comme moi je suis beaucoup en déplacement, mais comme elle adore les enfants.
D'accord. Voilà. Parce que tu as la grande, donc elle est à l'école.
Ouais, la première année de maternelle, section petit. Ouais. Et donc voilà quoi.
D'accord, ok. Là on va élargir un tout petit peu au quartier, donc revenir un petit peu. Donc tu aimes bien le centre-ville, ouais. Alors au-delà de l'animation qu'il y a et tout, qu'est-ce qui te plaît le plus?
Moi je trouve qu'on essaie de comparer un peu par rapport au quartier. Je trouve que quand même j'apprends plus de mots dans les quartiers qu'en centre-ville. C'est-à-dire que chaque fois que je vais, c'est bizarre à dire, chaque fois que je vais sur les quartiers, j'apprends, il y a plein de mots qui arrivent comme ça. Limite, je me sens un peu dépassé des fois, c'est vrai. Hein. Il y a plein de mots qui arrivent comme ça dans le langage, un peu tout ça. Et c'est vrai que j'apprends beaucoup de choses. Et le centre-ville, c'est super carré, on prend son temps, on discute, on papote, il y a des animations. En centre-ville, bon, c'est vrai qu'il y en a très peu dans les quartiers. L'animation, c'est nous qui la créons, avec éventuellement un barbecue improvisé ou avec un thé entre potes, chez soi. Mais c'est deux ambiances totalement différentes. c'est deux ambiances totalement différentes, dans le sens où quand j'habitais dans le quartier, il y avait déjà toutes les communautés. C'est-à-dire que moi, des fois, ma théière se retrouvait au sixième étage et que la console PlayStation du gars du deuxième était chez moi. Donc ça, ça me manque un peu.
Une vraie vie...
une vraie vie, un vrai voisin, partage. Chose que je n'ai pas trouvé en centre-ville. C'est-à-dire que dans les quartiers, on ferme sa porte. Une fois ici, on la ferme à double, voire triple tour. Donc cette ambiance me déplaît un peu. Je trouve qu'il y a moins de sourires, moins de convivialité, honnêtement, que ce qu'il peut y avoir dans les quartiers. Mais il y a des plus aussi en centre-ville, comme des mois dans les quartiers aussi. Par exemple, aujourd'hui, je profite vraiment du centre-ville parce que je fais découvrir des musées, des spectacles à mes enfants, à ma femme, à moi-même, chose que je n'avais pas avant. C'est-à-dire, j'avais une culture assez... assez limite quand même dans les quartiers, hein, quand j'habite le quartier. Aujourd'hui, à 29 ans, je découvre des choses et c'est ça qui est fabuleux.
D'accord. Donc, en termes d'offres, on va dire culturelles, d'animation,
ouais,
des choses comme
ouais,
ça.
Là, en centre-ville, ouais, c'est vrai que là, ça c'est.
D'accord. Je vais revenir donc comme promis au travail et donc est-ce que tu peux en quelques mots me dire en quoi ça consiste exactement ton travail et comment on s'organise on va dire
alors, je vais découper un peu ma journée. Le matin, 7h30, de 7h30 à 8h40 à peu près, je fais plusieurs interventions concernant un infotrafic. C'est-à-dire que je suis en temps réel, en direct, dans les boulevards, dans les faubourgs, sur les ponts de l'agglomération orléanaise pour vous donner l'infotrafic en temps réel.
C'est ça,
en voiture ou en scooter. Là, c'est plus en voiture pour des questions, pour une question de sécurité. Après plusieurs accidents, maintenant, je le connais. Et donc, je vous donne l'infotrafic en temps réel. Le moindre pépin, le moindre bouchon, le moindre petit souci, je vous le donne à l'antenne. Ensuite, de 9h à 10h, et car après je suis le citoyen par terre comme je l'ai expliqué, je vais dans les rues d'Orléans pour faire parler les commerçants, les habitants.
D'accord. Et voilà. Ça c'est toi qui choisis.
C'est moi qui choisis les thèmes, les lieux.
D'accord.
Voilà. Généralement j'arrive pas avec des thèmes.
Tu prépares ça un petit peu en avance ou tu
non,
pars
non,
un peu
tout.
À l'aventure? Ah oui, c'est vrai.
Pas du tout, je vais bosser vraiment sans filer. Mais ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que bon, je papote un peu avec la personne 5 minutes et en discutant comme ça, je prends des mots-clés. Je prends des petits mots-clés. En fait, j'ai rempli mon sac, j'arrive avec un sac vide, je fais mon shopping. Hop, je prends.
D'accord.
Et dans l'interview, et d'ailleurs, ça vaut quelques petits trucs. Après l'interview, on me dit souvent, mais c'est génial, t'as pas préparé ton truc et tout. Mais le fait de discuter quand même 5-10 minutes avant, on prend un sac et on fait ses courses. On prend des
D'accord.
trucs.
Tu vois ce qui peut être voilà. intéressant à poser comme
question. Ou par rapport à l'actualité, ou par rapport au temps. Donc, voilà. Moi, j'ai fait mon shopping comme ça le matin, dans mes interviews. Une fois mes interviews finies, je reviens à la radio, j'anime.
J'ai juste ça, parce que ça m'intrigue un peu, je te coupe la parole. Donc, en fait, en gros, tu sais que de 9h à 10h30, voilà, tu dois faire quelques interventions, on va dire, en direct.
Ouais.
Et donc, là, concrètement, tu dis, bah, tiens, je me ferais bien
voilà, c'est ça. Alors, de temps en temps, je dis,
là,
par exemple...
Il pleut, j'ai pas envie d'aller trop loin.
Alors, des fois, oui, c'est tout à fait ça, mais c'est ça, mais c'est la vie. C'est-à-dire que moi, je me fais porter dans ces interviews par la vie. C'est-à-dire que si la vie est actuellement, par exemple, comme demain, est sur le quartier gare, sur le marché du quartier gare, là où il y a de la vie, j'y vais. C'est-à-dire que demain matin, je vais annoncer le quartier gare. On sera en direct demain matin, enfin tout à l'heure, sur le quartier gare, c'est le marché, on fera vivre le marché. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller voir. Je sais qu'il y a de la cuisine, suivant ce que j'entends, ce que je vois et tout ça. Après, là, je fais mon.
D'accord, ok. On referme la parenthèse, je te laisse poursuivre ta journée type.
Ma journée type, et donc après le City Reporter, je mets la casquette du grand défi. Alors, c'est un jeu sur des communes. En fait, c'est un jeu. Moi, je suis une commune, un monument, un lieu, à quelque chose du département. Et c'est deux auditeurs qui s'affrontent pour découvrir qui je suis. Alors je leur donne deux indices. Mm-hmm. Le premier indice, généralement, il les met un peu dans le brouillard. Mm-hmm. Le deuxième indice, bon, on essaye de savoir. Et puis après, ils font leur proposition. Et dans l'ordre d'arrivée au standard, celui qui me fait la première proposition, enfin celui qui me donne la bonne réponse, qui gagne. Mais c'est en fait découvrir notre région, un peu déguisé sur le ton de l'humour, avec des indices, machin, tout ça. On rigole beaucoup avec de gros cadeaux quand même. Mm-hmm. Et derrière tout ça, c'est faire connaître un peu notre région aux Orléanais ou autres qui, par exemple, ne savaient pas que à la cathédrale d'Orléans, que la cathédrale d'Orléans, c'était la seule qui n'avait pas été bénie. Mmh. Voilà.
Mmh. Ah oui, je le savais.
Et qui dissimulait un morceau de bois du crucifix du Christ.
D'accord.
Et quelque part dans la cathédrale.
D'accord.
Il y a plein de trucs comme ça qui n'en sait pas. Que éventuellement le pont de Montargis a une histoire phénoménale, c'est-à-dire qu'il aurait apparemment une histoire de diable. Ça aurait été le diable qui aurait construit ce pont en une nuit. Et un pacte signé avec le maire de Montargis. Et le maire de Montargis, pour justement inaugurer ce pont, devait envoyer une âme au diable, c'est-à-dire une personne qui traverse le pont, c'était ce qu'il avait dit avec le diable, mm-hmm. pour prendre cette âme, pour, voilà, il avait dealé avec le diable pour voir le pont, et il a fini par envoyer un chat, le maire, mm-hmm. le chat qui a traversé le pont, et voilà, le diable s'est fait avoir, quoi.
D'accord.
Il a pris l'âme d'un chat.
Ça me dit quelque chose. Et ça tu le prépares avant ?
Je le prépare avant, ça je le prépare avant, je le prépare la veille.
Quelque chose en stock ou c'est...
J'en ai en stock. Non, là, c'est quand même beaucoup de recherche parce que des fois j'ai des auditeurs qui me posent des colles. Vraiment. C'est quand par exemple je suis une commune du département. Est-ce qu'il y a une boulangerie qui s'appelle Côte d'Or chez vous ? Écoutez, madame, ça. Voilà. Et comme je suis censé savoir tout, mais ça arrive, hein, mais très peu de fois, mais il faut quand même que je prépare un peu avant.
D'accord.
Et puis après, j'ai une autre rubrique que je présente après le samedi, qui elle est enregistrée. C'est la seule émission que j'enregistre. Ça s'appelle Asso Sport. C'est une rubrique sur les associations du département sport.
D'accord.
Voilà.
Et donc en fait, tu travailles toute la semaine
du lundi au vendredi, ouais.
Au vendredi, plus l'émission.
Plus à côté de temps en temps, ça arrive une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, suivant les sujets, parce qu'on est plusieurs journalistes. Mm-hmm. Alors moi je suis animateur ici. Mm-hmm. Ce qui est vraiment très bizarre, c'est que dans le national, on me présente comme journaliste. Faut pas le dire ça. Mm-hmm. Faut pas leur dire. Parce que pour être journaliste, il faut avoir une carte de presse, il faut avoir fait des études. Or moi j'ai pas fait ces études de journalisme, j'ai pas de carte de presse. Et pourtant, en national, on me présente comme journaliste. Mais après, bon, journaliste, c'est juste un statut. Mm-hmm. Voilà.
Mm-hmm. D'accord. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'une émission sur France Culture.
France Culture, c'est une émission qui est de 19 à 20 heures, qui s'appelle Masse Critique. Mm-hmm. C'est une émission où il y a pas mal d'invités, des écrivains, des gens qui font un peu la culture. On invite aussi, par exemple, le patron de Coca-Cola pour lui parler de ses produits et pas que. On invite des écrivains, des gens autour de la culture un peu d'aujourd'hui.
Et comment ça se passe, c'est
pas moi qui choisis. Alors là, c'est pas moi qui choisis.
Non, mais je veux dire, c'est pour toi concrètement, tu montes.
Je monte à Paris. Je monte à Paris, à la maison de la radio. Mm-hmm. Et là, c'est pas la même chose, c'est pas le même ton. Mm-hmm. Je rigole pas. Mm-hmm. Hein. J'essaie de rigoler un peu, mais c'est pas le ton de France Culture. France Culture, c'est plus posé, c'est plus écrit. C'est ce que j'écris à France Culture, c'est ce que j'écris ici en un mois, quoi.
Mm-hmm.
C'est,
d'accord.
Mais...
Et ça arrive régulièrement que tu...
Souvent les sujets. Tout dépend des sujets.
D'accord.
Tout dépend des sujets. Bah, par exemple, j'ai été faire un sujet sur les jeux en ligne, sur l'ouverture des jeux en ligne à partir du 1er juin. Mm-hmm. Depuis le 6 avril, le Parlement avait voté une loi sur ces jeux-là, la concurrence, sur les jeux. Donc j'ai fait des reportages là-dessus. Et voilà, j'ai fait ça.
Ok, très bien. Tu as encore un peu
non,
de
ça va,
un peu loin, donc on a parlé beaucoup de travail, donc comme tu ne travailles pas, c'est quoi généralement
tes... Là, je peux pas. Non, mais je fais toujours des choses. Je fais vraiment plein de trucs, c'est-à-dire que il m'arrive. Bon, déjà moi j'aime la musique. J'aime la musique, je pratique un peu de musique, c'est-à-dire que je crée de la musique par ordinateur. Je pourrais pas vous donner le genre, hein, parce que c'est du hip-hop orienté métal avec la techno mélangée avec
des petites machines électroniques.
Voilà, je passe mon temps, je suis beaucoup avec mes enfants, je joue au poker sur des tournois, voilà.
En ligne ou
Online et sur des vrais tournois Orléans où c'est marrant, c'est un sport pour moi parce que ça demande beaucoup de réflexion, de psychologie, tout ça, donc c'est important. Mmh. Et ça me permet d'acquérir de la patience aussi, surtout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant.
Avec du vrai argent?
Non, le tournoi que je pratique, non, c'est vraiment pas du vrai argent, c'est gratuit. C'est mardi au Bowling d'Olivet, d'ailleurs on est mardi, je vais y aller ce soir. Non, c'est vraiment gratuit. Par contre, sur internet, il m'arrive de faire des parties payantes, des parties à 1$, ça représente à peu près 70 centimes. C'est pas grand chose, 70 centimes. Je les perds, tant pis, j'en gagne 30$, bah, tant mieux. Mais non, ça dépasse pas. Ça dépasse pas. Et puis, je vais beaucoup, quand on m'appelle par exemple pour aller faire des speeches chez les jeunes qui ont un peu quelques difficultés. Je suis pas un modèle, hein, mais parce que ce qui m'arrive, je pense que j'ai eu 0,005% de chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Le parcours que j'ai, franchement, honnêtement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est de la chance et du boulot, quoi. J'ai vraiment bossé. Donc je vais rencontrer beaucoup de jeunes en difficulté, je monte beaucoup sur Paris pour parler dans 94, 93 et plus, pour éventuellement applaudir ce qu'ils font, les aider, les aiguiller quand il faut. Et je le fais aussi sur Orléans et on m'invite, bientôt je vais aller une conférence où il y a une petite fille qui est auditrice, elle va avoir 6 ans, qui est elle très malade. Qui va parler de sa maladie, et donc moi ça m'intéresse.
D'accord. Ok. Et donc en gros, là tu me disais que on t'invite un peu parler à des jeunes en difficulté,
des jeunes qui cherchent
des insertions sociales, des choses comme ça.
Qui se cherchent, qui essayent de se trouver.
Donc en gros, c'était le grand frère qui a réussi. On te présente.
Alors moi j'aime pas le grand frère qui a réussi, c'est parce que quand on parle des quartiers, on dit souvent les grands frères. Alors moi j'aime pas cette expression, c'est pas les grands frères. Moi on m'a donné la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, on m'a donné ma chance, on a su me donner ma chance, j'ai su la saisir et j'ai su bosser pour en arriver là aujourd'hui, et j'ai encore besoin de bosser. Donc pour moi rien n'est acquis, c'est-à-dire que là je vous parle, mais demain ça se trouve je vais aller pointer à la NPE. Rien n'est acquis, même si je suis embauché aujourd'hui, donc rien n'est acquis. Je ne vais pas dire aux gens attendez qu'on vienne toquer chez vous, parce que c'est pas vrai. Je ne vais pas dire aux gens regardez moi j'ai réussi, mais je leur dis bien il y a 0,005% de chance.
Et ta motivation pour aller voir ces jeunes,
c'est pour pas qu'on leur raconte n'importe quoi non plus, parce que moi j'étais à leur place avant d'être à ma place aujourd'hui. Moi j'étais, pour pas qu'on raconte des bêtises, parce que moi des bêtises, vous savez, quand j'étais jeune je voulais devenir archéologue. Le jour où je me suis levé, parce que je me souviens, j'étais à l'école primaire, mais aujourd'hui je le porte encore, chaque élève devait se lever pour dire ce qu'il voulait faire plus tard. J'étais en CM1. Moi je vais devenir policier, copain, machin, moi je vais devenir plombier, électricien, maçon, bon, très bien, comme ton papa, d'accord. Quand moi je me suis levé, c'était vraiment ce que je voulais faire, vraiment, même aujourd'hui, là on a des travaux place de Gaulle, mais je passe souvent, je regarde et tout, je suis vraiment fan. Et quand j'ai dit je vais devenir archéologue, et que la maîtresse à l'époque avait rigolé, elle avait rigolé de moi, mais elle me dit mais attends, mais toi, tu vas faire archéologue. Mais j'ai pas trouvé ça cool, et donc du coup, j'ai complètement zappé cette j'ai envie de dire la vérité aux gens, et j'ai envie, s'ils ont des rêves, leur donner le moyen d'aller jusqu'au bout de leur rêve, parce que on a tous des rêves, enfin je pense, et y a des rêves que l'on peut vraiment faire. Par exemple un jeune qui me dit écoute moi j'aimerais bien ouvrir une entreprise, mais il n'y a pas de souci. Tu veux faire quoi? Dans la plomberie. Écoute, tu vas bosser pendant 3-4 ans, tu vas te donner à fond dans la plomberie, tu vas acquérir toutes les techniques possibles, tu je mets un peu d'argent de côté. Ça coûte aujourd'hui, je crois aujourd'hui, 1 euro symbolique pour ouvrir ça et ça. Et ben tu fais ça. Puis le gars, tu lui expliques un peu les choses avec des vrais. Je prends la plomberie, mais avec des vrais arguments. Et il faut jamais dire non, mais tu vas ouvrir ton entreprise. Parce que c'est pas l'objectif, c'est pas le truc.
Je pense qu'en fait, en gros, si j'ai bien compris, enfin, moi je te comprends hein, pour les raisons que tu peux définir aussi. Une motivation, on va dire. Parce que tu te sens lié à eux, ne serait-ce que par le fait que tu es issu de ces
quartiers-là. Ouais, mais d'un côté, je me sens vraiment lié à eux. À un moment, je l'étais même trop. Mmh. Il ne faut pas l'être. Mmh. Dans le sens où je trouve que j'aime pas sectaire, communautaire. Mmh. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Ça ne m'intéresse pas. Quand on vient me voir, on me dit quand vous avez une notoriété, bah écoute, t'as un rebeu comme moi, il faut qu'on fasse une association, lutte contre. Ça m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je veux, c'est lutte contre toutes les discriminations, aussi bien raciales que homophobie, les juifs, ça m'intéresse. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de la misère, c'est vrai que notre, je dis ma communauté, parce que c'est quand même aussi ma communauté, je veux dire, voilà, je sais aussi d'où je viens, mais il y a le tri. C'est pour ça que je dis, moi j'ai eu 0,01% de chance d'être aujourd'hui à ma place.
Et donc le conseil que tu donnes à ces jeunes, c'est plutôt travailler, quoi.
Non, ouais, c'est de se donner les moyens, et surtout pas de se fermer. Mmh. Et surtout pas de se fermer, de rester dans sa tête avec ses. C'est s'ouvrir, c'est s'épanouir.
T'as pas l'impression que ça se ferme un peu?
Ouais, justement, j'ai l'impression que c'est une espèce de tulipe qui est vraiment fermée et qui s'ouvre pas. Mais la tulipe est plus belle quand elle s'ouvre. Moi, c'est ce que je leur dis. Moi, je dis la fleur est beaucoup plus belle quand elle s'ouvre. Vous êtes fermés, les gars. Ouvrez-vous un peu. Et c'est en s'ouvrant qu'on va à la rencontre des gens. Et c'est en s'ouvrant qu'on apprend des choses et que. Oui, c'est, il n'y a que comme ça. Moi, il n'y a que comme ça que j'ai réussi, je veux dire. C'est pas en restant enfermé chez moi que j'ai réussi à faire quelque chose. C'est pour ça, ouvrez-vous. Je leur dis, ouvrez-vous, allez à la rencontre des gens. Parce que ça se trouve, la personne que tu vas aller voir, elle va peut-être qu'elle connaît une autre personne qui pourrait t'aider sur ton projet. Ou qui pourrait te. Voilà.
Mais tu n'as pas l'impression, justement, puisqu'on parle de ça, que. Que disons que si tu prends la communauté maghrébine, parce que c'est de celle-là qu'on parle, il y a 10 ans et maintenant, qu'on ne peut pas. Enfin, que.
Franchement,
il y a un
petit moment, je me disais, oh là là, on a super bien évolué. Enfin, et là, j'ai l'impression que ça repart en marche arrière, mais plus dur qu'avant, j'ai l'impression, mais vraiment, j'ai l'impression que ça commence à devenir de plus en plus dur. Alors, moi, je suis naïf. Moi, je suis quelqu'un de là où il y a du mou, et je me dis, il y a toujours du bien dans du mauvais. D'accord ? Je me dis, bon, bah, c'est juste une petite année où on parle de avec. Et moi personnellement, parce qu'on m'en parle, on me dit, ouais, la bourgogne, t'en penses quoi ? Le machin,
T'es sommé de donner ton avis.
Non, mais après, je deviens le porte-parole. Non, mais c'est vrai, c'est ce que ça. Après, je deviens le porte-parole. Moi, je fuis tout ça. Moi, j'ai des idées que j'ai gardées. Voilà, j'ai mes idées, j'ai mon point de vue. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, musulman, mais peace. C'est des musulmans, enfin, c'est être musulman tranquille, qui aime la vie et l'homme en général. Hein. Quand je dis l'homme en général, c'est l'être humain. Hein. Qui aime l'être humain, qui peut être même transparent, je m'en fous, quoi. Et même s'il y avait autre chose que voilà, moi, je suis comme ça. Et j'ai choisi cette vie-là. D'accord, je respecte tout le monde. Même quand on me respecte pas, c'est pas grave, tant pis, je passe à autre chose. Mais ouais, pour moi, elle est importante. Maintenant, c'est vrai que souvent, on me dit, je suis pas le porte-parole, quoi. On m'invite des fois dans des trucs, mais du coup, je refuse, parce que je suis pas le porte-parole. Et ce qui rend encore plus dur dans mon métier, c'est d'être mis dans la case de ce personnage. D'accord. C'est de voilà, quand on a besoin d'un rebeu pour parler de l'islam ou qu'on a besoin d'un rebeu pour parler de l'immigration ou du racisme et tout, c'est des vœux. Non, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux qu'on m'appelle pour parler du terroir français. Pourquoi pas? Hein, de notre terroir
je
ici.
Vois, je vois.
Ça c'est intéressant. Mais j'ai mes points de vue et tout, mais c'est pas intéressant parce qu'après on va vous mettre dans une case et tout. Même si même si des fois j'ai envie de dire attends stop, le mec là à côté il raconte n'importe quoi, moi je vais aller dire comment les jeunes aujourd'hui en France ressentent ce qui se passe aujourd'hui avec cette nouvelle république.
Je vois tout à fait. Je vois.
C'est comme dans tous les métiers aujourd'hui. Un plombier, je pense que il peut donner son avis, un maçon, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, les médias, si je donne mon avis, on va rapidement me mettre. Alors, je vais essayer de super médiatiser, hein, mais on va me mettre dans la caisse des petits robots, machin, tout ça. Alors que moi, non, j'ai pas envie d'être comme ça, ne serait-ce que pour ma carrière. J'ai pas envie d'être dans une case. Moi, j'ai envie d'avoir une multicarte.
D'accord. Ouais. Oui, parce qu'on parlait de la communauté. Est-ce que tu as l'impression d'être un petit peu au milieu, entre deux mondes
qui... Alors, moi, j'ai vécu entre deux chaises.
Tu vois ça comme ça.
Ouais, ouais. Non, ouais. Vous savez, moi, il y a un truc qui me blesse au fond de moi. Ce que je disais tout à l'heure, je sais d'où je viens. Vraiment, moi j'adore. J'adore le Maroc, j'adore tout ça. Et quand on vous tape sur l'épaule et qu'on vous dit, oh, mais toi t'es pas comme les autres. Et que je leur réponds, mais moi je suis pire que les autres. Et puis, ça me blesse. Parce que je pense honnêtement que le problème vient aussi bien des deux côtés. Je pense que l'inconnu fait peur. Moi, j'aimerais, mais c'est encore une fois, c'est un rêve, hein. J'aimerais que l'on envoie des gens dans les quartiers, que dans les quartiers, on les envoie dans des belles villas, dans des machins, tout ça, et se faire rencontrer, et pouvoir discuter, et pouvoir... Mais il n'y a jamais. Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, on enferme ces gens-là. On les enferme. Vous savez, c'est comme n'importe quel animal. Vous l'enfermez, vous laissez dans une cage, il devient fou. D'accord ? Et bien, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort. Et pourtant, il y a tellement de choses à apprendre. Là, on parle des quartiers et des beaux quartiers, là, hein, on est bien d'accord. Parce qu'on parlait de l'immigration, on parlait de l'image aujourd'hui, un peu en quelque sorte, de cette nouvelle génération. Parce que moi, je ne suis pas immigré, moi. Moi, je suis totalement français. Moi, je suis né en France, j'ai ma carte française. Moi, je vais voter, je n'ai pas un seul vote. Hein, les municipales, les régionales, moi, je vais voter partout. Moi, partout où je peux mettre un papier, je le mets. Parce que pour moi, c'est important. Et voilà, parce que je suis français, mais à 400%. Et je suis sûr que je connais plus de choses que qu'un Orléanais pur souche. Mais je pense honnêtement qu'il y a des on se connaît pas. J'ai l'impression qu'en France, on connaît pas son voisin. J'ai l'impression qu'on prend pas le temps de connaître. Et c'est ce qui pousse les gens à se détester, à se déchirer, avoir des a priori,
ça je comprends. Tu n'as pas l'impression, parce que tu connais aussi les habitants du quartier, etc. Est-ce que tu n'aurais pas envie de dire la même chose aussi pour des gens des quartiers?
Mais je leur dis. Ce discours-là, je leur dis par exemple quand je vois un jeune en ville qui me dit oh, je vais chercher du boulot, je dis mais attends, tu vas pas chercher du boulot avec un survêtement quand même. Il me dit pourquoi? Mais il ne sait pas. Mais parce que c'est très marrant parce que quand nous, on a l'habitude, parce qu'on a chacun notre truc, voilà, moi je fais aujourd'hui j'ai un métier, tout ça, bon j'ai une façon d'habiller, tout ça. Mais ils savent pas. C'est-à-dire que pour eux c'est normal. Quand il arrive avec son survêt, je dis mais attends, mais là tu vas faire du sport ou tu vas me dire non, je cherche du boulot. Je dis mais non, mais mets-moi un jean, habille-toi bien, coiffe-toi, tu me présentes, tout va bien. Il me dit pourquoi je suis pas bien comme ça. Je lui dis non, mais tu vois, c'est l'intérim, tu vois, tu fais du boulot ou pas. Tu vois, et c'est ça, mais ça passe, c'est pas qu'il cherche pas. Quand on dit oui, il me regarde, il cherche avec sa casquette ou il cherche avec son truc, c'est comme un homme politique, c'est sa tenue d'être en costume, hein. Pour lui, c'est normal. Et pour lui, c'est normal. Il est bien, il est à l'aise dedans, c'est ce qu'il porte tous les jours, avec différentes couleurs. Et ben voilà. Et puis il est rentré chez lui, il m'a dit ouais, c'est vrai, t'as raison. Chez lui, il s'habille, moi il sort le costume du mariage quand même, il s'habille, bien, il va chercher du boulot. Mais c'est ça, tu vois, c'est, je pense, il y a tout à apprendre. C'est comme les anciens, je pense que les anciens aujourd'hui, les anciens qui, qui ont eu des entreprises et qui partent en retraite, pourquoi ils n'iraient pas former des jeunes dans les quartiers, hein, de les motiver, enfin les motiver parce qu'ils sont déjà motivés, on leur donne juste pas la chance, mais leur apprendre un métier. Je pense que, honnêtement, aujourd'hui, si on veut faire avancer les choses, on parle de la retraite, on parle des retraités, on parle des retraités qui sont un peu en galère, machin, tout ça. Mais moi, je trouve que on est en train, en France, de perdre. On est en train de perdre des métiers, on est en train de perdre de la formation en France. D'ailleurs, j'en parlais avec un professeur au lycée technique. Ils sont en train de perdre une connaissance artisanale énorme. Énorme. Moi, j'en vois dans la rue, je me dis, mais moi, j'avais mon métier, je travaillais le bois, où j'avais ma spécialité et tout. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus personne qui le fait. Et bien, ça se perd. Ça se perd. Et je pense que justement, il y a besoin d'aller vers ces jeunes qui galèrent aujourd'hui pour trouver des formations ou des emplois, et bien, d'aller dans ces formations-là, d'aller être parrainé par un ancien qui lui apprend le métier et pourquoi pas qui lui apprend la vie.
D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire ? Bah, on revient toujours sur les mêmes questions, ouais, parce que ça m'intéresse aussi. Hein, mais, donc, je reviens juste à ma trame un peu, parce qu'on s'est éloigné beaucoup mieux, mais, parce que vraiment ça m'intéressait. Vous avez tout. Donc, on disait. Quand tu n'es pas au travail, le type de choses que tu fais. Et donc, en vacances, c'est plutôt.
Alors, j'ai jamais été au Maroc avec ma femme.
D'accord.
Pour la seule et bonne raison, c'est qu'elle aime bien la mer, et chez moi, il n'y a pas la mer. Un peu galère, je suis dérive. Non, mais on va en vacances, parce que déjà, il faut avoir les moyens d'aller en vacances. On va en vacances. Ouais. Moi, je pars du principe où. Je peux rester moi à Orléans, mais pour le bien de mes enfants, aujourd'hui je suis père de famille, il est important de faire découvrir autre chose. Et puis, entre parenthèses, je découvre en même temps. Parce que j'ai été pour la première fois de ma vie en vacances à la mer avec ma femme. Quoi. J'y allais en France, hein. J'y allais au Maroc, mais je ne connaissais pas la France. Et quand je vais en vacances, je vais à Montpellier. Je fais la côte un peu, j'aime bien. Je découvre, je redécouvre.
D'accord.
Voilà, c'est génial. Ouais.
Donc plutôt mer.
Nous, on est plutôt, à la maison, on est vraiment branché mer.
D'accord.
Mer.
Et plutôt en France, donc.
Ouais.
D'accord. Tu fais un peu de sport
Non, je ne fais plus de sport, j'entends.
D'accord,
je fais plus de sport.
Tu écoutes la radio ou de l'aspect ou télé, plus radio, plus télé?
Non, moi il m'arrive. Non, mais j'écoute bien sûr. Ça fait partie un peu de ce que je me fixe aussi comme objectif. Il est important d'écouter la concurrence. Hein. Mm. C'est même pas la concurrence, c'est voilà, il est important d'écouter les autres confrères. RTL, Europe 1, France Inter, France Culture. Enfin, ces radios, je les écoute à petite dose. Savoir un peu ce qui se passe, comment ils font.
Tu mets ça dans le chapitre loisirs ou c'est juste par curiosité aussi?
Par curiosité, quand je suis en voiture, j'écoute beaucoup la radio moi quand je suis en voiture. Aussi bien les radios jeunes aussi, pour savoir, pour être à la page aussi, parce que c'est important de savoir un peu ce qui sort en nouveauté.
D'accord. La télé?
Et la télé, oui aussi. Alors la télé, ce que j'aime bien, c'est les reportages que l'on peut trouver sur Arte, TV5 Monde aussi de temps en temps. Je viens d'acquérir récemment Internet.
D'accord.
Surtout, c'est vrai.
Et donc, c'est
alors là, je suis ouvert au monde, là, c'est vachement bien. Donc, depuis, j'attends des séries télé, hein, les films aussi qui passent à la télé, c'est pas un souci. J'aime bien acheter des mangas, des animés aussi, je trouve ça sympathique et bien fait.
D'accord.
Et j'essaie d'aller sur Internet aussi pour me renseigner de pas mal de choses. Petite recherche.
D'accord. Ok. Bon, on arrive presque à la fin, parce que c'est vrai que c'est un peu long.
Non, il n'y a pas de souci.
Alors, j'ai juste quelques questions sur Orléans en général.
Oui.
J'avais une question concernant les manifestations des festivités, on va dire, sur Orléans, donc de type
de
Jeanne d'Arc ou les grandes, là, le festival de la Loire.
Alors ça, c'est vachement bien. Moi, je trouve que déjà, par rapport à ce que je connaissais, moi, quand j'étais petit, hein, je voyais déjà beaucoup plus de pays défiler sur les fêtes de Jeanne d'Arc. Mais les fêtes de Jeanne d'Arc, c'est très simple. Il y a tout Orléans qui regarde. Et c'est ceux qui sont pas là pour regarder des films. Donc en gros, on est tous là. C'est bien pour les enfants, c'est bien pour les soirées, c'est bien pour Orléans. Parce que c'est l'histoire de cette ville. Et je pense qu'il est important tous les ans de la fêter. Alors, le maire actuel, Serge Gouard, essaye. Parce que c'est vrai que pour les jeunes ados, ils s'en foutent des fêtes de Jeanne d'Arc. Ils viennent peut-être, mais ils s'en foutent, il n'y aura pas le défilé. Ou ils oublient, ou ça ne les intéresse pas, ils préfèrent aller chez un pote. Alors, il essaie de les attirer avec la musique jeune, justement, pour pouvoir les intéresser. Et ce qui fait, je trouve que c'est un bon. C'est plutôt pas mal. Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, le Festival de Loire, mettre la Loire en avant, c'est ce qu'il fallait faire depuis au moins 30 ans.
Voilà. Ça aussi, je trouve que c'est bien.
Non, et encore, je trouve qu'on est 15% de nos capacités à Orléans. C'est-à-dire qu'on a un bateau qui fait café toute l'année, mais je trouve quand même que c'est assez cher quand même pour les Orléanais, déjà dû. C'est le seul bateau. Alors qu'on pourrait avoir des petites pénichettes où on mettrait des guinguettes pour les anciens, où ils pourraient animer un peu plus les bords de Loire, ils pourraient mettre des petits stands de week-end, ils pourraient y avoir.
D'accord, et tu verras pas uniquement pendant le festival de Loire.
Ouais, pas uniquement. Mais par contre, le festival de Loire avec toutes ces musiques et tout ça, ça c'est génial parce que ça réconcilie un peu les Orléanais avec la Loire. Donc voilà, pour ça c'est vraiment important.
Ok, festival de. Jazz ici.
C'est un moment que j'attends toute l'année.
C'est bientôt.
C'est bientôt. Ouais. C'est un moment. En plus, je crois que cette année, en fait, les 20 ans, je pense. Je ne sais plus. C'est 20 ans. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a un anniversaire cette année. Alors, festival de jazz, c'est un peu le top départ de mes vacances.
D'accord.
C'est-à-dire que quand il fait beau, festival de jazz, c'est pas le top départ de mes vacances, c'est. Je me fixe par rapport au festival de jazz, parce qu'après, à juillet, pour me dire, je suis bientôt en vacances. Parce que c'est un moment, je trouve que c'est la chaise longue de l'Orléanais. C'est un moment convivial, c'est un moment où la musique est vraiment bien.
Il fait beau.
Il fait beau en général. On peut aller boire un coup, on peut manger un morceau. Et c'est vraiment. On a besoin de ça, ne serait-ce qu'au niveau national ou international, on a besoin de ces moments-là, surtout avec ce qu'on a connu, cette crise, ces nuages islandais, avec les galères qu'on a pu connaître, avec cette crise financière, avec ces attentats, avec tous ces soucis que le monde a connus. Je pense qu'une petite pause musicale, vous respirez,
on est d'accord.
C'est génial.
D'accord. Marché de Noël.
Marché de Noël, je le fais tous les ans.
D'accord.
Marché de Noël, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est convivial, c'est une patinoire pour les enfants. Bon, tous les années, tous les ans, il change. Hein, le marché de Noël, il est dispatché un peu bizarrement chaque année. Mais dans l'ambiance de Noël, c'est bien. Moi, j'ai l'impression qu'on perd un peu l'ambiance de Noël, c'est-à-dire le Père Noël et tout. On l'a mis un peu. À l'écart et tout, alors que le marché de Noël, dans le marché de Noël, généralement, ça doit briller, il doit y avoir ce côté Noël, Papa Noël, ce côté enfant, ça commerce pas mal, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de plus en plus de l'identité, de l'image de Noël.
D'accord.
Mais ça anime le centre-ville et la place du marché.
D'accord. Est-ce qu'il y a des histoires qui circulent sur Orléans, dans Orléans?
Orléans, c'est la plus grande ville d'histoire. C'est les, comment on les appelle d'ailleurs? c'est les ragots d'Orléans. Il y a un livre qui est sorti justement là-dessus, sur attention, n'allez pas chez les juifs à l'époque, hein. Mm-hmm. N'allez pas chez les commerçants juifs parce que les femmes disparaissaient.
C'est la fameuse rumeur d'Orléans.
Voilà, la rumeur d'Orléans. Et en bord de Loire, il y a un sous-marin qui justement réceptionnait toutes ces femmes pour les emmener. Aujourd'hui, il y en a beaucoup.
Après, des blanches, etc. Mais est-ce qu'il y a des histoires un peu analogues maintenant
avec en 2010
des nouveaux quartiers ou des choses comme ça, je sais pas, non
non, là le... des histoires, je dis non, mais en fait il y en a toutes les tous les ans, il y a des nouvelles histoires. Ah ouais. Mais là c'est plus politique, je pense.
D'accord.
C'est des histoires plus politiques. Mmh. C'est des ragots, c'est mais des histoires un peu comme des rumeurs, c'est ça en fait.
Des histoires un peu étranges, non, ça...
Bah non.
Non.
En fait, d'accord. Non, il n'y a pas réellement d'histoires étranges.
D'accord.
C'est que maintenant on a des vrais lampadaires en centre-ville d'Orléans, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de lumière, donc voilà, aujourd'hui il y a Internet, il y a pas mal de choses. La nouvelle technologie casse un peu les limites et les... je trouve.
Les ondes d'ombre.
Ouais.
Les Orléanais, ils ont quelle réputation?
Froid.
Sans froid.
Les Orléanais, je sais pas pourquoi on est. On a une sale réputation quand même. Mmh. Les Parisiens nous considèrent. Orléans sont super froids, c'est les bourgeois, c'est. Ouais, les Orléanais, on a cette réputation-là. Ouais.
Mmh. Qui n'est pas mérité du tout.
Si, un peu quand même. Parce que les anciens, si, les anciens étaient plutôt froids. La nouvelle génération qui arrive l'est beaucoup moins. Et l'est quand même un peu, quand même.
D'accord. Est-ce qu'il y a une façon...
D'ailleurs, je crois qu'on les appelait les chiens d'Orléans.
Moi, je crois qu'il y a l'expression.
Il y a les chiens d'Orléans. Mais la vraie histoire, je crois que c'est une dame qui la détient. Elle me l'avait racontée il y a un petit moment.
Ah oui ?
C'est en rapport avec une statue, d'ailleurs, une statue qui serait pas loin de Saint-Marceau, d'un bonhomme ou un truc comme ça. Et à ses pieds, il y a un chien. Et... je pense que c'est un rapport avec ça.
D'accord.
Mais il faut vérifier la fourmi. On nous appelle les chiens.
Est-ce qu'il y a une façon de parler propre à Orléans?
Oui, il y a des mots. Il y a des mots. De ma génération à moi, il y a des mots. Hein.
Ah, oui.
Il y a comme par exemple, vous dites à quelqu'un, ouais, c'est chips.
C'est chips. Ouais. C'est Orléans. C'est
Orléans, mais c'est assez chimique. Par exemple, vous allez n'importe où dans le monde entier, c'est Orléans. Oui, c'est chips, c'est Orléans.
C'est chips, ça veut dire c'est bien, c'est...
Non. Non. C'est chips, ça veut dire c'est pas bien.
Ah.
Par exemple, il y a quelqu'un qui vient de tomber dans la rue, qui tombe et dit oh là là, c'est chips. Mm. Ça, c'est ça, voilà. Mm. Et donc, c'est de chez nous.
D'accord.
Voilà. Mm. Il y a cette expression-là, propre, il y en a sûrement d'autres, mais c'est celle qui est.
Ça n'a rien à voir avec les chips.
Non, ça n'a rien à voir avec les chips, les tonnes de chips que l'on peut trouver dans les supermarchés. Non.
Ça là, je crois que j'ai un collègue qui prétend que effectivement que c'est propre à Orléans.
Ah, ça je peux te dire, parce que c'est
bien. Il y a d'autres expressions, tu en connais d'autres? Des mots comme ça ou des expressions?
Non. Ça, c'est la seule que vraiment j'ai.
D'accord.
Je savais pas qu'elle me revienne en tête. Après, c'est des expressions que l'on retrouve aussi dans d'autres villes, mais. Franco-arabe, mais sinon. Sinon, c'est. Sinon, c'est vraiment le mot. Là, c'est dans le top. Hein. Mm. Ça, vous, de tous les mots que vous pouvez, c'est le 1, numéro 1.
Quel que soit l'âge, etc., c'est. Il suffit.
Ouais, il faut voir quand même. C'est pour les. Ouais, je pense, ouais.
C'est des jeunes.
Ouais, le 30 ans, 35 ans, ouais, je pense, d'accord. Même 40 ans. 40 ans, ouais. Je serais 40 ans, ça. Ouais.
D'accord.
On comprend cette expression.
Est-ce que tu trouves qu'on parle bien à Orléans? Généralement.
Ouais, généralement, je trouve que l'on parle bien.
Oui. Par rapport à d'autres villes.
Alors, c'est quoi bien parler? C'est. Ouais, non, mais.
De ton point de vue,
ouais, bah, on se comprend. Ouais. On se comprend, quoi.
D'accord.
On se comprend.
Et les jeunes?
Ah, les jeunes, aujourd'hui, il y a un nouveau langage qui arrive. Attention, là, c'est le langage texto. Je pense que dans la prochaine, dans les prochaines années ou le prochain quart de siècle qui arrive, je pense que l'écriture française et la langue française va complètement être bouleversée, notamment par le téléphone portable et surtout les textos. Mm-hmm. On va faire énormément de fautes d'orthographe et il y aura, je pense, énormément de mots anglais, de mots arabes, de mots portugais peut-être aussi, qui vont arriver dans la langue française, et ça commence déjà à être noté sur le dictionnaire, Robert.
À cause de, à cause du portable, tu penses, enfin,
non, là les mots, c'est toutes les cultures, toutes ces personnes qui sont arrivées en France depuis un demi-siècle et qui aujourd'hui amènent un nouveau langage. C'est très simple aujourd'hui, le flux c'est l'argent. Les petits jeunes, quand ils vont dire oh, j'ai kiffé, c'est un mot en arabe, mais je vais pas d'ailleurs totalement dire ça, mais il y a plein d'expressions comme ça qui viennent de l'arabe et qui se retrouvent dans la langue française. Et d'ailleurs, sans connaître vraiment, même des mots aujourd'hui qui sont employés par des anciens et qui ne sont pas dans le dictionnaire et qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire et surtout d'où ça vient. Et qui pour eux font partie voilà, d'un mot, d'un dialecte, enfin d'un parler de rue, quoi. Alors que c'est vraiment un mot.
Mais qui ne sont pas perçus comme
voilà.
Étrangers. Ouais. D'accord.
Même chose pour l'écriture, je pense que dans Terre de Cirque qui va arriver, les jeunes vont faire beaucoup de fautes d'orthographe parce que c'est toi, ils vont l'écrire c'est plus loin toi, avec des parenthèses, deux points, une autre parenthèse ou un truc comme ça qui font un sourire. Voilà, c'est. L'orthographe va devenir catastrophique. Ah, on va être aimé.
Elle est déjà un peu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent ou qui t'amusent dans la façon de parler de certaines personnes, de ton entourage ou de.
Ouais. Mais moi, j'aime pas les bourgeois. Moi, j'aime pas quand on parle avec. Parler de bourgeois,
parler de bourgeois,
c'est faire de belles et longues phrases et tout ça. Moi, j'aime bien quand on écorche la langue française. Par exemple, quand mon père me parle en français.
Ah, il te parle en français.
Ouais, mon père. Enfin, on parle en arabe aussi, mais il parle
ce bébé. Toi, tu parles l'arabe ou pas?
Ouais, couramment. Moi, je parle arabe couramment. Et moi, tous ces accents, tous ces. C'est fautes de français, mais pour moi, mais j'adore ça. Moi. Ça peut faire pousser les cheveux, même des chevaux. Moi, ça me. Mais je trouve ça merveilleux. Mais les accents, vous ne pouvez pas savoir. Pour moi, c'est du bonheur. Pour moi, c'est du bonheur. Et même des accents français, du Berry ou des Marseillais. Mais moi, vivement. Mais laissons ça.
D'accord. Et donc, ce que tu disais là, c'est la langue bourgeoise, c'est les phrases un peu.
Les phrases de bourgeois, de bourgeois.
De bourgeois ou de prof parce que...
Non, pas de prof. Parce que les bourgeois n'ont pas le même langage que les profs.
Et comment tu vois
Alors, c'est pas le bourgeois, le mec qui gagne 5000 euros par mois, on s'en fout, je parle pas de ça. Mmh. Moi, je parle des grandes familles. Mmh. Vous savez, de grandes familles où Julien vous voit son père. Mmh. Moi, ça, je ne peux pas comprendre déjà. Mmh. Et où ils ont un langage. Moi, je n'arrive pas à le faire. Moi. De toute façon, je ne peux pas. C'est limite pas possible. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange. Ça, c'est le français sans faute, sans sourire, sans machin. Ça me dérange.
Moi. D'accord. Écoute. Si quand même. Donc là, tu m'as dit que tu parlais également l'arabe.
Ouais.
Ok. Tu as toujours parlé. Enfin, c'est la famille évidemment qui a.
Ouais, moi, je suis né avec mes parents, mon père, ma mère, qui m'ont appris l'arabe. Moi, j'ai appris en même temps que le français.
Mmh. Donc,
je sais pas l'écrire, mais je le parle vraiment bien. Enfin, je le parle couramment. C'est l'arabe. Pas littéraire, hein.
L'arabe marocain. Et ouais, donc, voilà. Si un Tunisien te parlait, par exemple, tu comprendrais ou pas
Les grandes lignes, ouais. En fait, ce qui change, c'est l'accent, en fait. Aussi.
Et l'égyptien, tu comprends
C'est plus
tu regardes un petit peu.
Oui, non, mais je comprends un peu, mais ça s'approche beaucoup plus du littéraire. Et littéraire, je ne le comprends pas beaucoup.
D'accord.
Je ne le comprends pas beaucoup. L'algérien, je saurais parler avec lui. Le tunisien, on se comprendra, voilà. Mm-hmm. Sauf sur certains mots, mais sinon.
Et ta femme qui est d'origine algérienne, tu m'as dit
Elle ne parle pas l'arabe.
Parle pas.
Moi, je parle en arabe de temps en temps, on comprend tout, mais on n'a jamais eu une discussion.
D'accord. Ok, bah, écoute, j'ai fini. Il me reste juste une dernière question que j'hésite à te poser. C'est une question un peu bizarre. mais ça fait...
J'aime les questions bizarres.
Elle risque de te surprendre.
Non,
disons que c'est la seule question quasiment qu'on a gardée de la première enquête, où on demandait aux gens de dire comment eux, comment ils font une omelette. Est-ce que tu peux me dire ça comment te...
Une omelette.
Oui.
Ouais, j'adore ça. Non, mais en plus, c'est une plaque que j'adore.
Bravo. Bravo.
Ouais, j'adore faire les omelettes. Hein.
Alors, dis-moi.
Alors, moi, c'est très simple. Ça dépend. Juste une omelette comme ça, qui est assez longue.
Comme tu veux.
Alors, la technique de l'œuf, hein, on est bien d'accord. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime bien avec les œufs, c'est, dans un premier temps, bon, je les casse, je les mets dans un espèce de grand... dans un bol, machin, je les bouille, machin, tout ça. Je mets un peu de gruyère à l'intérieur. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est prendre de la viande hachée, le kofta, comme on dit chez moi, de la faire chauffer d'abord sur l'eau. C'est vrai, moi, j'adore ça. Avec un peu d'oignon, tout ça, et après mettre mes œufs avec mon fromage et tout, et puis après ça me donne quelque chose de délicieux.
Donc tu commences par. J'ai pas bien compris.
Donc je prends d'abord mes œufs, je les mets dans un bol, je les étouille. Mm-hmm. Je fais peut-être les choses à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Mm-hmm. Je les étouille, je mets un peu de gruyère à l'intérieur, un mm-hmm. peu de sel, machin, tout ça, je les laisse dans le bol. Mm-hmm. Entre temps, je fais cuire ma petite kofta.
Mm-hmm. Parce que c'est de la viande hachée.
C'est de la viande hachée assaisonnée en fait. C'est de la viande hachée assaisonnée. Je rajoute un peu d'oignon, un peu de poivron. Voilà. Mm-hmm. Une fois que ça a cuit un peu, parce que je ne pouvais pas mettre les œufs d'abord, parce que sinon la viande ne serait pas cuite. Mm-hmm. Je mets mes œufs dedans et après, voilà, ça me donne quelque chose de délicieux à goûter
à l'assaisonnée. Tu appelles ça une omelette?
Moi,
ou plutôt,
moi je l'appelle je l'appelle les œufs à Momo. Voilà.
C'est une recette personnelle?
Non, c'est une recette, je pense, personnelle.
D'accord.
Voilà.
Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On a fini.